Et puis le lien est facile à trouver avec notre premier invité de ce soir, Quentin Lafay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez un roman, c'est d'ailleurs bien précisé en tout cas sur les épreuves du livre que j'ai lu, un roman aux éditions Gallimard, 128 pages, un livre qui s'intitule « L'intrusion ». On vous reçoit ce soir parce que ce livre, au-delà de l'aspect roman sur lequel on va revenir, est aussi l'évocation d'une réalité. Le passage d'ailleurs de la fiction à la réalité est intéressant. Je précise que vous êtes écrivain, scénariste, que vous avez été l'une des plumes d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il était ministre de l'économie. Puis vous êtes devenu l'un de ses conseillers à l'Élysée avant de prendre le large et de partir notamment en Californie. Vous revenez avec ce livre. Commençons peut-être par le roman. C'est un roman, évidemment, avec des personnages. Je pense notamment à ce Hugo Valmier, jeune Premier ministre, qui connaît une affaire de prostitution, qui fait comme un écho à ce qui s'est passé ces jours derniers. Comment est-ce que vous avez fait le choix de partir sur un roman, au fond, de décrire une expérience, celle d'une victime de Wikileaks. Donc de Julian Assange d'une certaine manière, et d'être d'une certaine manière le patient zéro.
Eh ben, c'est parti d'une réalité que j'ai vécue d'abord, puisque deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle, en 2017, je me suis moi-même fait pirater et j'ai vu...
C'était un compte Google
C'était un Gmail, que j'ai ouvert en 2008 ou 2009 de mémoire, et j'ai vu l'ensemble donc de ce contenu Gmail diffusé sur Internet. C'était un Gmail privé, je le précise, qui n'avait pratiquement pas de lien avec la campagne et ma profession de l'époque. Et donc voilà, ce que je décris dans ce roman, c'est l'expérience de voir sa vie intime. Alors c'est pas toute sa vie intime, c'est un champ réduit de la vie intime, c'est la vie numérique, la vie qu'on mène à travers les emails qu'on envoie et que l'on reçoit. Mais je tente de décrire voilà ce que ça fait de voir toute cette somme de choses souvent très très banales, mais qui nous constituent, être diffusées du jour au lendemain et consultables par à peu près n'importe qui.
Banal, ça veut dire quoi ? Des fiches de paye, des rencontres personnelles, des amitiés, des secrets aussi.
Des secrets, pas tellement de grands secrets, c'est-à-dire qu'on n'a rien découvert de fascinant concernant ce que j'étais. En revanche, des ambiguïtés, des hypocrisies, des manières de s'adresser différentes à, selon que l'on parle à ses parents, sa petite copine ou son petit copain, sa famille, ses collègues, etc. Et cette duplicité, cette manière d'être...
Qui est propre à chacun.
Qui est propre à chacun, qu'on partage tous, mais qu'on assume absolument jamais, jamais
publiquement.
En public. Une fois que c'est révélé au grand jour, une fois que ça devient... une fois qu'on est un hypocrite officiel, si je puis dire, c'est là que ça devient très très dur à gérer et que c'est éminemment violent.
Vous êtes cinq membres proches de l'équipe de campagne Emmanuel Macron à se faire pirater, mais les cinq le sont à cause de vous.
Non, alors ça c'est ce que je raconte dans le roman. Mon protagoniste dans le roman clique sur le faux email qu'on lui envoie et c'est par lui, à travers lui... Que le piratage se répand dans le roman et se répand dans cette entreprise privée un peu sulfureuse. Dans la réalité, moi, c'est pas, en tout cas, je crois pas, c'est pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui a cliqué, je sais pas exactement d'ailleurs comment on a été piraté d'un point de vue technique.
Ça, vous n'avez jamais eu le fin mot de l'histoire?
Non, on n'a jamais eu. En fait, on n'a pas été du tout suivi après ce piratage. Personne m'a appelé, ni les services de l'État.
Contrairement dans le roman.
Contrairement au roman où là on les...
Ça commence par cette scène justement où quelqu'un vous appelle, vous dit, vous raconte.
Voilà, il explique une chose très très simple, c'est que quand on est piraté, quand on a tous ces mails diffusés sur Internet, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est...
aller se coucher et à fermer l'Internet.
C'est serrer les dents et fermer Internet. Parce que moi évidemment, j'y connaissais pas grand chose quand ça m'est arrivé. Et pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'on m'explique... que ce ne serait pas le cas, j'ai cru qu'on pourrait réaspirer toutes ces données et que je pourrais m'en sortir. Voilà. Évidemment, ça n'a pas été possible.
Alors vous, Quentin Lafay, vous publiez ce roman, mais clairement vous le dites, vous avez publié une tribune en début de mois dans Le Monde qui s'intitule « J'ai été piraté par Wikileaks ».
Victime de Wikileaks, mais
je soutiens Julian Assange. C'est une chronique relativement intéressante où effectivement vous revenez sur l'idée que cette fameuse phrase de « vous n'avez rien à cacher », donc finalement si vous n'aviez rien à cacher, c'est que c'est pas si grave. Vous racontez comment vous les avez haïs, clairement, notamment parce qu'il y a eu eu cette politique de la part de Wikileaks de, en fait, tout publier, tous les courriers piratés, y compris ceux qui n'avaient strictement aucun intérêt au regard d'une, disons, d'une volonté politique de dénonciation de certains faits. Avais-je raison de rejeter et de discréditer leur entreprise entière ? Vous répondez que non, tout en dénonçant, et vous le dites, des dérives réelles. Comment est-ce que vous regardez Wikileaks aujourd'hui ?
Je tente simplement de faire la distinction entre ce qui m'est arrivé d'un point de vue personnel et ce qui ne concerne au fond que moi, c'est-à-dire la violation de mon intimité. Et c'est, Wikileaks a clairement aidé cette diffusion de l'intimité, puisque quelques mois après le piratage, dans l'été qui a suivi l'élection présidentielle, ils ont mis sur leur plateforme l'ensemble de ces emails privés, sans faire la distinction entre ce qui relevait de l'intérêt général et ce qui me concernait.
Donc là, c'est la grande différence avec Snowden, où tous les emails ont été édités, notamment par Glenn Greenwald et par les journalistes du Guardian et d'autres journaux qui les ont édités.
Oui. Absolument. Et dans le même temps, je ne veux pas rejeter en bloc l'entreprise menée par Wikileaks depuis près de 15 ans et qui a consisté à révéler, pour le coup, de nombreux scandales d'État d'intérêt général. Je pense notamment aux conditions de détention à Guantanamo, aux exactions commises par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, au fonctionnement du régime syrien, au fait qu'un président français avait été espionné sur son téléphone durant des années par la CIA et la NSA. Ce travail-là qui a été mené notamment par Julian Assange, je tiens à lui rendre hommage et je pense que c'est un travail important qu'on doit reconnaître.
Donc, s'il est finalement extradé, parce que je crois que l'audience, c'est la semaine prochaine.
Début de demain,
exactement. Qu'est-ce que vous en pensez ? En même temps, vous parlez de dérive réelle, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a effectivement cette mise au ban de cet homme qui est traité vraiment comme un criminel de guerre, ce qui, d'une certaine manière, pose deux questions. Est-ce que Wikileaks peut lui survivre ? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Et d'autre part, est-ce que ça ne pousse pas l'organisation dans ses retranchements et dans des positions peut-être parfois radicales ? Vous parlez de dérive réelle dans cette chronique.
Oui, ce qui compte là, à partir de la semaine qui s'ouvre, c'est de bien comprendre qu'on fait le procès de Julian Assange. En tout cas, c'est lui qui sera devant la juge. Mais c'est un débat beaucoup, beaucoup plus large qui s'ouvre demain. C'est le débat du rapport au réel, c'est le débat de la vérité des États. Est-ce que la première puissance mondiale peut mener des exactions en Afghanistan et en Irak sans jamais être dénoncée ? Est-ce que nous, on peut accepter qu'une fois que ces vérités sont révélées, est-ce qu'on peut accepter de livrer la personne qui les a mises en lumière? Voilà, donc c'est tout ce débat qui se joue demain, c'est le rapport à la vérité, à l'information, et c'est aussi une forme de rapport au journalisme qu'on doit défendre, et c'est pour ça qu'on doit empêcher cette extradition.
Une question, puisqu'évidemment le livre « L'intrusion », roman publié chez Gallimard, utilise et se nourrit de ce qui vous est arrivé. En même temps, c'est une histoire tout à fait différente que vous racontez, avec des personnages, avec des filles, des garçons. Tout ça se passe différemment de sans doute votre vraie vie. Pourquoi vous avez fait le choix de la fiction et non pas d'une non-fiction ?
Parce qu'au fond, ce qui m'est arrivé, c'était une malchance et une chance. Une malchance pour des raisons évidentes et une chance d'un point de vue littéraire parce que je trouve que souvent le numérique est difficile à traiter d'un point de vue littéraire parce que c'est une matière qui est complexe, c'est une matière qui est froide, c'est une matière qui est difficile d'accès pour le profane. Et là, j'avais la chance, entre guillemets, de pouvoir faire un lien direct entre le numérique et la vie réelle, entre le numérique et la vie vécue. Et c'est ce que j'ai tenté de réaliser. Au fond, moi, je suis pas du tout un spécialiste du numérique. La technologie m'intéresse assez peu. Les outils, je les connais mal. Mais ça m'intéressait de décrire comment souvent ce sont des débats un peu opaques, on réalise pas vraiment les données qu'on transmet, c'est un danger qu'on a du mal à pointer du doigt et à toucher réellement. Là, à travers cet exemple, à travers ce qui m'est arrivé, je pense pouvoir décrire et montrer le risque réel de partager ces données sur le numérique, sur Internet, et c'était un objet littéraire en soi qui, à mon sens, ne me concernait pas seulement, mais qui concerne toutes les personnes aujourd'hui qui utilisent les outils numériques.
Vous avez été la plume d'Emmanuel Macron, votre héros donc est un homme politique. Est-ce que vous avez la sensation, on parle de la Startup Nation, en tout cas Emmanuel Macron s'est positionné comme un président qui a investi la question numérique. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'instar ou pas de votre héros, notamment au sein de la classe politique, il y a une forme de conscience de ces enjeux et de leur prégnance et de ces questions liées aux données ?
Je crois qu'il y a une conscience dans les discours, c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient très très souvent dans les discours politiques.
Dans l'intimité, concrètement, dans la manière de gérer ses propres affaires, ses propres mails.
Alors, je pense qu'on est une génération quand même où, à l'échelle du numérique, on commence simplement à intégrer les usages et on commence seulement à apprendre à se protéger. Mais on est un peu cette génération d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a tout un apprentissage à faire. Il faut qu'on apprenne à se prémunir, il faut qu'on apprenne à se protéger, il faut qu'on apprenne à faire un usage beaucoup plus précautionneux du numérique. Et ça va prendre un peu de temps, comme tous les usages technologiques. Mais l'actualité montre qu'on n'y est pas encore tout à fait.
Est-ce que ça a été difficile de passer au roman? C'est votre deuxième roman, en l'occurrence. Mais est-ce que c'est difficile de raconter une autre histoire? Comment on fait les choix? Au fond, le roman, c'est aussi des perspectives, des ouvertures immenses, innombrables, sans limite, alors que ce qui vous est arrivé était très précis. Comment on articule, à partir d'une expérience si précise, un roman qui est très différent?
J'ai simplement essayé de tirer le fil et de rassembler toutes les sensations que j'avais vécues ou croisées pour en constituer un objet littéraire. Mais si je m'étais limité à l'expérience même que j'avais traversée, au fond, ça aurait été assez réduit. On a toujours un arbitrage à faire avant de commencer un texte entre le récit de l'expérience et la tentative littéraire. Si je m'étais limité à l'expérience, ça aurait été au fond assez pauvre parce que j'ai pas non plus vécu un traumatisme fondamental immense, même si ça a été difficile.
En revanche, ça veut dire que la littérature est plus riche finalement, elle offre plus de perspectives.
Dans ce cas-là, je pense qu'elle m'a permis en tout cas d'aller beaucoup beaucoup plus loin et de vivre la vie de personnes que je ne connaissais pas.
Le livre s'appelle L'Intrusion, c'est un roman, il paraît chez Gallimard, il est signé Quentin Laffey. Merci d'être venu
dans
Soft Power ce soir.